21h, 22h, Frédéric Taddeï.
Cécile Guilbert, vous publiez un roman, Les Républicains, qui vient de paraître chez Grasset, Les Républicains avec un R majuscule, bien que ce ne soit pas, il ne soit pas membre du parti Les Républicains. Mais c'est vrai que ça fait plus joli avec un R majuscule. C'est l'histoire de deux anciens camarades de Sciences Po, un homme et une femme, qui se retrouvent 30 ans après, à l'issue d'une émission de télévision, une émission qui avait réuni quelques spécimens de leur promotion. Jean-François Copé, Frédéric Becbédé, Anne Roumanoff, Frigide Bargeau, David Pujadas, Alexandre Jardin, Laurence Parisot, Stéphane Fuchs, tous ont été la même année, si j'ai bien compris, à Sciences Po, dans la même classe que vous, au fond.
Oui, c'est cette fameuse promo 86 qui a fait l'objet d'un bouquin dans les années 2000 d'Ariane Chemin, et je trouvais amusant, j'aurais pu écrire ce livre beaucoup plus tôt, à vrai dire, puisque ça fait depuis 86, on aurait pu en l'écrire beaucoup plus tôt. Mais en fait, j'ai trouvé intéressant de l'écrire aujourd'hui, parce qu'en fait, à vrai dire, ça fait 30 ans que je vois mes anciens condisciples, dont certains que je connaissais pas à l'époque, hein, honnêtement, que j'ai retrouvé sur ce plateau de télé un jour au début des années 2000. J'ai eu envie de transposer cette émission au début du livre comme un starter du réel. Parce qu'après tout, on les a vus à l'assaut du pouvoir, et donc de voir Montebourg, Copé, s'empoigner pour les primaires et tout, je trouvais ça assez amusant. Bon, après, très vite, on les abandonne puisqu'on les quitte.
Oui. Elle est devenue essayiste. Hein. Elle vous ressemble comme une sœur, cette fille en noir qui est l'héroïne de ce roman. Et puis lui, c'est un banquier d'affaires naviguant dans la politique. Ils vont passer le reste de la nuit ensemble à déambuler dans Paris. Ça se passe dans le Paris chic, hein, celui des grands hôtels, du centre historique. J'allais vous demander qu'est-ce qu'il y a de commun à cette génération, comme je l'ai demandé tout à l'heure à Fischbach, mais j'ai peur d'employer le mot parce que quelqu'un dans votre livre dit que c'est crétin d'utiliser le mot génération.
Bah, personnellement, j'ai jamais utilisé le mot génération en parlant des gens qui étaient dans ma classe d'âge, parce que dans la vie, je ne me sens pas du tout, je sais bien que j'appartiens à une génération qui a connu certains événements historiques, mais si vous voulez, je vois des tas de gens qui ont pas mon âge, des gens beaucoup plus jeunes, des gens beaucoup plus âgés, et donc cette notion de génération me semble pas parlante.
Ça ne nous oblige pas à nous fréquenter que notre génération, mais parfois on peut trouver qu'il y a des réflexes simplement liés au fait qu'on est né à une certaine époque et que l'on a donc dû affronter ou vivre les mêmes événements.
Disons que j'en parle beaucoup plus aisément concernant mon personnage masculin, puisque lui, il incarne précisément cette génération de serviteurs de l'État qui ont fait l'ENA, mais pas pour servir l'État, c'est-à-dire dans un premier temps pour servir l'État, mais très vite, comme beaucoup de ces énarques des années 80, sont allés pantoufler dans le privé, et c'est le moment, si vous voulez, où la haute administration est allée manier la porte tambour et passer du public au privé. Et c'est un homme qui veut pas faire de politique, c'est un homme qui est attiré par le pouvoir, c'est très différent.
C'est effectivement ce qui sépare vos deux personnages. Hein. Les deux ont grandi dans l'aisance, sont plutôt des privilégiés. Ce qui les sépare, à première vue, c'est l'appétit du pouvoir qu'a dû nourrir ce banquier et pas cette fille en noir qui, elle, est devenue écrivain. Et appétit du pouvoir qui a dû nourrir aussi tous ceux qu'on a cités par ailleurs, que vous devez voir comme des gens qui ont fait un autre choix que ceux de la fille en noir.
Absolument. Ceci étant, la fille en noir, elle pense qu'elle exerce un pouvoir par les mots. Donc, il y a aussi cette question du pouvoir qui se pose. Mais chez les gens, par exemple, ce personnage masculin, si vous voulez, il y a ceux qui sont à la conquête du pouvoir politique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était amusant de faire ce livre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le roi est nu. On voit bien que les hommes politiques, la plupart, manquent terriblement de vision et sont à l'assaut du pouvoir pour le pouvoir. Et c'est bien ça qui énerve nos compatriotes. Guillaume Fronsac, le personnage de mon livre, c'est quelqu'un qui veut pas faire de politique, il veut pas se faire élire, il veut pas aller s'embêter sur... Parce que ça a sa noblesse aussi, la politique, ça a ses servitudes, mais ça a sa noblesse et ça a sa grandeur. Lui, c'est pas ça qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être une éminence grise, de travailler dans un cabinet et d'avoir les privilèges du pouvoir, mais sans les servitudes de la politique.
Et qu'est-ce que ça implique? On y sacrifie quoi?
Ben, on est sacrifié tout, enfin, c'est une activité chronophage, j'imagine, qui suppose déjà de se garder de tous ceux qui veulent votre place, de ceux qui veulent vous faire des choses trappes. C'est la vie de cabinet, c'est la vie du pouvoir, c'est vieux comme le monde, ce n'est pas seulement républicain, c'était aussi la vie de monarchique telle que l'a décrit Saint-Simon.
Vous citez François Mitterrand dans ce roman, Cécile Guilbert, qui disait « La France, avec 60 amis bien placés, on peut la tenir ». Est-ce que c'est encore vrai, si ça l'a jamais été d'ailleurs?
Oui.
Est-ce qu'on peut encore tenir la France avec 60 amis bien placés, qui ont fait l'ENA, qui ont fait Sciences Po. Est-ce que ça suffit aujourd'hui à l'époque du plébiscite dont parlait Jean Viard tout à l'heure?
Ça
du plébiscite permanent.
Ça dépend ce qu'on appelle tenir la France, évidemment. Si c'est tenir la colère populaire, et je pense pas. Mais si c'est tenir un certain appareil d'État, un certain nombre d'intérêts qui se recoupent, oui, je pense que oui.
Parce que dans votre livre, on a l'impression que plus personne ne tient la France, justement, que tout est en train de se casser la gueule, de s'effondrer, notamment dans cette classe sociale-là.
C'est-à-dire qu'on critique beaucoup ce qu'on appelle une oligarchie. Moi, j'ai voulu que dans ce livre, il y ait des nuances, parce que je pense que d'abord, c'est le royaume de la littérature, c'est celui des nuances. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, un vilain banquier d'affaires qui incarne l'oligarchie, que détestent les populistes, et de l'autre côté, une pure et dure qui serait la fille en noir, puisque en fait, quand on est à Paris, on est dans Balzac. Donc, dès qu'on est à Paris, on a des portes qui s'ouvrent parce qu'on écrit, parce que tout le monde de ce pays est fasciné par la littérature, et je sais personnellement, voilà, que je pense que j'ai fréquenté beaucoup de gens dans ma vie simplement parce que j'étais écrivain, que j'aurais peut-être jamais fréquenté autrement. Donc on est toujours dans Balzac. Dès qu'on veut écrire sur le pouvoir, l'ambition, Paris, on n'arrive pas à sortir ce moule balzacien, ce qui est à la fois intéressant et angoissant. Ça veut dire que rien ne change. Et ça change superficiellement. Donc c'est un livre qui critique l'oligarchie, mais qui fait de Guillaume François qui est un personnage un peu plus ambigu.
Mais c'est pas non plus un roman au sens littéral. Vous citez Balzac. C'est d'abord un portrait à charge de la France politique des 30 dernières années. Les protagonistes y sont d'ailleurs nommément cités. Hollande, Sarkozy, ils sont épinglés avec leurs petits travers, les histoires de montres, les histoires de maquillage. Si on le relit dans 30 ans, votre livre, est-ce que vous pensez qu'on comprendra encore de quoi vous parlez?
Oui.
Parce que quand on lit Balzac, il nous embête pas avec les noms des ministres de l'époque ou des journalistes qui étaient à la mode.
Si, il y a dans Balzac des références à des personnages vivants. Bon, bah, peut-être qu'on ajoutera des notes, je sais pas. Non, mais je pense qu'en tout cas, on aura un tableau, si vous voulez, de ce qu'était la décomposition politique, sociale, voilà, en 2017, c'est aussi pour ça que l'élection présidentielle est si incertaine, c'est pour ça qu'on sait plus voilà à quel sens vouer, et c'est pour ça aussi que j'ai fait ce livre maintenant, parce qu'en 30 ans, ça a été pour moi le moment où, à partir du deuxième septennat de Mitterrand, finalement, on a vu monter le Front National de façon hallucinante jusqu'à arriver aujourd'hui, où tous les présidents se sont fait élire sur des idées ou des promesses qui n'ont pas été tenues, et donc il a fallu 30 ans pour voir le résultat. Ceci étant, moi je croyais avoir écrit un livre très politique, et puis en fait je m'aperçois que c'est oui, il y a la politique qui tient une grande place, mais en fait je crois qu'aussi c'est un roman sur, forcément, quand on fait un bilan de 30 ans, sur des illusions perdues, forcément, sur le désir qui perdure quand même, le désir...
Et vous n'avez pas eu l'idée à un moment, parce que vous avez écrit surtout des essais, d'en faire un essai, tout simplement?
Non, parce que si vous voulez, moi, quand j'écris, en fait, j'ai envie de décrire dans tous les genres, si vous voulez. J'ai pas envie de me cantonner à un genre. Et en fait, je pense que quand on est écrivain, il faut manier la langue, et on peut la manier dans tous les genres littéraires. Et honnêtement, je trouvais que c'est très amusant, parce que quand on est romancier, on est un peu comme un petit démiurge tout puissant. Donc, c'est beaucoup plus amusant d'écrire un roman que d'écrire un essai qui assomme tout le monde.
Oui, mais par exemple, on se demande est-ce qu'ils vont finir la nuit ensemble. Et j'ai l'impression que la question vous intéresse pas tant que ça.
Ça sera un petit peu convenu qu'ils finissent la nuit ensemble.
Non, mais on pourrait se demander, est-ce qu'il va y avoir du suspense sur ce sujet?
Je pense qu'il y a un suspense, en fait. On me dit qu'il y a un suspense. Vous trouvez pas qu'il y a un suspense?
Je laisse au lecteur choisir. Jean Viard, un mot sur ces 30 dernières années qui vous ont beaucoup intéressé, vous aussi?
Mais moi, j'entends bien ce qui est dit. C'est pour ça que j'ai toujours voulu habiter à la campagne. Même je suis directeur de recherche à Sciences Po, je suis éditeur et tout, mais je me suis toujours gardé de la vie parisienne parce que je trouve qu'elle est, elle est en fait fermée. Ce que je trouve terrible, c'est qu'elle est pas ouverte sur le monde. Quand on vit pas à Paris, vous savez, les premières grandes maisons d'édition, que ça soit Actes Sud ou Rivage, qu'on fait énormément traduction, ils étaient loin. On était obligés sur
province.
Le monde, en province. Il y avait quelques belles collections, hein, il y a la Rouge et tout, mais très peu. C'est-à-dire que finalement, la province s'est ouverte au monde plus vite que Paris. Parce que Paris, on a l'impression qu'il y a tout, mais en fait, il n'y a pas tout, c'est simplement qu'on est entre soi.
Et Sciences Po, vous êtes directeur de recherche?
Ben oui, mais j'y vais très très peu, donc je veux dire, c'est un travail intéressant. Et puis de temps en temps, enseigner, c'est très bien, comme chercheur, c'est parfait. Et puis la Sciences Po est une très belle institution, donc c'est parfait d'y être. Mais j'y vais assez rarement, pour être tout à fait honnête.
Fishback, comment vous les voyez, vous, les élèves de Sciences Po, ou ceux qui vont faire l'ENA parmi eux, ensuite
Oh là là, tout ce qui est école, ça me fait peur, moi. J'ai du respect pour les gens qui croient aux études.
Vous croyez aux études encore, Cécile Guilbert?
Je crois au savoir, je crois au plaisir d'apprendre. Ça passe pas forcément par les études. Moi, par exemple, qui suis folle de littérature, c'est pas tellement de mes profs de lettres que j'ai appris les choses les plus intéressantes.
Et
même
c'est
si
pas
ils m'ont
Sciences
des
Po
choses.
Non plus. Que
non,
ça
non,
s'est...
non. Sciences Po, moi, j'avais fait Sciences Po pour être sûr d'avoir un job plus tard, parce que je pensais qu'on pouvait pas vivre de sa plume.
Et résultat?
C'est, on en survit difficilement. Si, si, un peu.
Les Républicains, c'est le titre du roman de Cécile Guilbert qui vient de paraître chez Grasset.
Europe 1 Social Club, 21h, 22h.